Bonjour à tous, je m'appelle Coralie Ongba, je suis consultante en marketing stratégique du luxe, fondatrice et organisatrice de la conférence Africa in a New Era, une conférence sur le luxe en Afrique subsaharienne, orientée banque et gestion privée, luxe de niche et sur les marchés émergents. Issue de l'univers de la banque d'investissement et de la banque privée, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de me consacrer à temps plein à mes projets professionnels autour de la branche du luxe ultra niche. Mes passions vont de la géoéconomie internationale aux univers pointus du luxe. C'est la raison pour laquelle mon podcast se prénomme Luxury Centrique. Aujourd'hui, pour mon premier audio, je vais vous parler de certains marchés disruptifs du secteur du luxe. J'aborderai ce sujet en réalisant une cartographie des nouvelles économies des groupes de pays BRICS et MINT. Proposé par la banque Goldman Sachs en 2011, l'acronyme BRIC désigne un ensemble de 4 pays composés du Brésil, de la Russie, l'Inde et de la Chine qui prennent une part de plus en plus importante au niveau de l'économie mondiale. Seulement voilà, avec l'émergence des nouvelles économies, notamment celle de l'Afrique du Sud en 2011, l'acronyme a subi une légère modification avec l'ajout d'un S en devenant donc BRICS. Cela dit, nous assistons à un nouveau groupe des leaders de l'économie mondiale, les N11, appelés aussi Next 11. À la base, les nations du BRIC, composées de la Russie, du Brésil, de la Chine et de l'Inde, comme nous l'avons souligné précédemment, portaient les espoirs politiques et économiques de près de 32% de la population mondiale. Mais malheureusement, après une décennie ascendante, ces nations ont subi de plein fouet les dommages de la crise financière connue entre 2007 et 2008, dont elles ne se sont jamais remises. Après cette chute, l'Inde et la Chine, dont la croissance du PIB vivote entre 1 et 2%, ont constaté que les 3 autres pays composant les BRICS étaient incapables de reprendre l'élan et sont donc aujourd'hui les locomotives de ces autres 3 pays. Il est tout de même important de noter que la fragilité des pays du BRICS a débuté à la suite de la hausse des taux d'intérêt et des prix du baril à la fin des années 2000. C'est ainsi que de nouveaux acronymes comme les MINT, les CIVET ou encore les BNIVM ont été proposés au même moment dans le but de substituer les pays du BRICS à d'autres économies émergentes. Les MINT, par exemple, étaient composés du Mexique, l'Indonésie, le Nigeria, l'Égypte et de la Turquie. Les CIVET, quant à eux, regroupaient les pays comme la Colombie, l'Indonésie, le Vietnam, l'Égypte, la Turquie et l'Afrique du Sud. Enfin, les BNIVM regroupaient le Bangladesh, l'Éthiopie, le Nigeria, l'Indonésie, le Vietnam et le Mexique. Penchons-nous un peu plus sur les MINT. Dans sa traduction anglaise, le terme MINT désigne le devenir encourageant des économies des États qui le composent. Ces États ont été désignés comme ceux pouvant prendre aisément le relais des BRICS. Les pays formant le MINT ont des caractéristiques communes, notamment une très bonne croissance économique, des profils économiques diversifiés, des matières premières disponibles, une population en forte croissance, mais surtout leurs engagements politiques. Dès lors, les pays tels que le Mexique, l'Indonésie, le Nigeria et la Turquie sont considérés comme des élèves modèles avec une démographie dynamique, mais aussi et surtout des perspectives économiques intéressantes. Regroupant 4 continents, à savoir l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique, les MINT comptent près de 644 millions de personnes. Cela revient donc à constater la forte démographie ascendante dans les pays qui le composent. Le Mexique, par exemple, représente l'avenir de l'Amérique latine grâce à sa forte demande domestique et à l'expansion fulgurante du crédit, bien qu'il ne correspond qu'à la moitié de la taille de l'économie brésilienne. L'Indonésie, quant à lui, bien que son économie soit nettement inférieure à celui de l'Inde et de la Chine, représente le potentiel de croissance non négligeable de l'usine « Asie » entre guillemets. Pour ce qui est de la Turquie, notons qu'il représente un potentiel de croissance dans l'usine Europe. Aussi, c'est ici que se noue l'ensemble des liens économiques dans la périphérie européenne. Comparativement faible aux autres pays présents sur cette liste, l'économie du Nigeria, qui actuellement est la plus grande économie d'Afrique subsaharienne, notamment grâce à ses activités pétrolières. De ce qui précède, nous pouvons donc constater que les MINT seraient donc la parfaite représentation des nouvelles économies émergentes. Justement, prenons le cas du Nigeria. Le Nigeria, premier pays africain producteur de pétrole et pays d'Afrique le plus peuplé, est devenu le pilier économique du continent grâce à son économie. En 2016, par exemple, l'économie du Nigeria était de 400 milliards de dollars, et cela malgré les multiples problèmes auxquels il fait face. Comme challenge, nous notons les problèmes sécuritaires, mais aussi les problèmes liés à la volonté de diversifier son économie, c'est-à-dire développer les secteurs non pétroliers. Outre cela, le pays continue et envisage d'accroître davantage son secteur privé, qui est aussi en plein dynamisme avec le boom des entreprises dans le domaine des finances, banques, bâtiments, assurances, agroalimentaires. En 2050, le Nigeria deviendra la 15e économie mondiale avec un marché de consommation de biens en explosion, voué à croître avec des prévisions cotées à de milliards de dollars en 2030. Avec une classe moyenne de 40 millions d'habitants qui constitue le premier marché de consommateurs du continent africain, une population connectée avec un taux de pénétration Internet atteignant 49% en 2018 par exemple, et aussi un taux de pénétration sur les réseaux sociaux à 19% en 2019 selon une étude, et aussi un nombre croissant de high net worth individuals qui devrait atteindre en 2020 le nombre de plus de 17 000. Le secteur du luxe, qui représente au Nigeria 0,4 billion de dollars, passe encore aux yeux de l'industrie du luxe global pour un marché embryonnaire comparativement à d'autres marchés. Mais soulignons aussi la présence dans le pays de célèbres marques internationales en haute horlogerie, haute joaillerie, concessionnaires automobiles ou encore du rayon mode et accessoires, soit par le canal de distribution de boutiques propres, ou par le biais de distributeurs officiels du côté des beaux quartiers de Banana Island à Lagos. Autre indicateur cette fois, à échelle continentale, la montée du private banking africain devrait augmenter de 7% annuellement au cours des 10 prochaines années. Autre exemple, le Mexique. Ce pays qui, selon les projections de l'OCDE, sera la 7e puissance économique en 2050, est actuellement considéré comme le leader du secteur du luxe en Amérique latine, devant le Brésil. Le Mexique a fait des ventes de plus de 7 milliards de dollars en 2017 et les statistiques annoncent la croissance de ses ventes à plus de 32% d'ici 2022. Avec cette croissance, il passera donc de 7 à 9 milliards de dollars contre 14% seulement pour le Brésil, soit 8 milliards de dollars. Avec plus de 125 000 high net worth individuals mexicains, le Mexique est donc le pays qui observe la plus grande évolution parmi les autres pays d'Amérique latine, car lui seul représente 4,5% de la vente de produits de luxe dans le monde, ce qui positionne le pays à la 7e place du marché mondial le plus dynamique au niveau des services et de la vente des produits de luxe. À titre d'exemple, Hermès détient 8 boutiques sur tout le territoire mexicain. Il est aussi à noter que le pays connaît ce rebond économique depuis 2012 et que cela est favorisé par son principal moteur de croissance, à savoir sa propre consommation privée, qui en 2016 constituait 68% de son PIB. La croissance du Mexique est aussi due par la baisse de son taux de chômage et l'augmentation des crédits bancaires. En 2015, par exemple, 47% des ménages mexicains représentaient la classe moyenne, soit environ 14 millions de ménages. D'ici 2030, ce sont plus de 18 millions de ménages mexicains qui devraient appartenir à cette catégorie, ce qui représente donc la totalité des ménages du pays. Une cible potentielle donc pour le secteur du luxe. En effet, la population mexicaine qui s'enrichit progressivement se tourne désormais de plus en plus vers les produits de luxe, c'est-à-dire les dépenses liées aux produits haut de gamme qui devraient augmenter de 6%. C'est la raison pour laquelle de nombreuses marques tentent d'attirer cette nouvelle clientèle avec notamment la création de plusieurs centres commerciaux haut de gamme à travers le pays. En effet, en 2016, sur 8,3 millions de ménages mexicains qui se situent dans la classe moyenne, 210 000 disposent d'un revenu disponible annuel de plus de 300 000 dollars. Pourquoi le secteur du luxe s'impose au Mexique ? Après avoir conquis le marché chinois, les marques se tournent vers de nouveaux pays émergents, à l'instar du Mexique. Après la crise économique de 2008 par exemple, les Mexicains ont relancé leur pouvoir d'achat et s'intéressent aujourd'hui aux produits de luxe. Ici, nous notons la hausse d'achat des 10 produits qui est estimée à plus de 6%. À titre indicatif, les ventes des produits de luxe ont été recensées à 7 billions de dollars en 2017 au Mexique. C'est ainsi que, par exemple, dans le quartier chic de Polanco à Mexico, où de luxueux centres commerciaux ont été dernièrement ouverts, favorisent et augmentent par la suite la consommation des produits et services de luxe sur place. C'est la raison pour laquelle les dépenses mexicaines accroissent annuellement d'environ 3,6%. Nous arrivons à la fin de ce premier audio. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode où l'on complétera l'évolution de l'industrie du luxe dans le monde.